J'aimerais avec vous lire quelques versets. On va en lire plusieurs ce matin, mais là, pour le moment, on va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des Actes des Apôtres récemment. Je vous avais invité à le lire par rapport à notre série que nous faisons sur l'évangélisation. Et ce matin, on va rester essentiellement dans ce livre des Actes des Apôtres. Donc, Actes 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hénélistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Ce matin, j'aimerais continuer avec vous notre parcours sur le thème de l'évangélisation. Initialement, j'avais prévu de commencer à parler sur la stratégie, la méthode que nous voyons dans les Actes des Apôtres. Et puis, à la réflexion, il m'a semblé qu'il manquait quand même, avant de parler de cela, d'un point que nous allons aborder au travers d'un homme, celui de Philippe. Bien sûr, nous parlerons la stratégie et méthode que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, mais j'aimerais dire déjà, d'emblée, que ça ira assez vite. Et puisque nous voyons et nous le verrons, qu'il n'y avait pas de grande stratégie, de grande méthode d'évangélisation, et qu'il y avait surtout et beaucoup de spontanéité et de simplicité. J'aimerais parler ce matin avec vous de l'état de cœur de toute personne qui est appelé à gagner des âmes. Et je le rappelle que nous sommes tous appelés à ça. Nous sommes tous appelés à témoigner de notre foi. Nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. En étudiant de près ce personnage de Philippe, je l'ai trouvé tout à fait intéressant, édifiant par rapport à notre sujet. Bien sûr, lorsque nous lisons les livres des Actes des Apôtres, on ne peut pas passer à côté de certaines figures qui ont marqué les premiers temps de l'Église et qui encore aujourd'hui marquent l'Église, puisqu'il y a des épîtres qui ont été écrits par ces personnages tels que l'apôtre Paul qui, est présent dans ce livre des Actes des Apôtres, surtout la seconde moitié des Actes des Apôtres, et puis aussi l'apôtre Pierre, ainsi que Jean, que nous voyons animés au début donc des Actes des Apôtres. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Pierre, Paul, Jean et d'autres hommes que nous trouvons dans ce livre des Actes des Apôtres. Mais j'aimerais ce matin m'arrêter sur un homme, c'est Philippe. Philippe dont il est question ici, où il y a juste son nom qui est cité, mais il y a pratiquement, ou en tout cas une bonne partie d'un chapitre des Actes des Apôtres qui lui est consacré, c'est le chapitre 8, et tout à l'heure nous lirons quelques versets dans ce chapitre des Actes des Apôtres. Ce que nous voyons ici, eh bien, c'est que Philippe a été choisi avec 6 autres hommes pour aider dans la distribution qui se faisait chaque jour auprès des veuves. Il y a eu un problème dans cette église, cette première église de Jérusalem, qui était grandissante d'une manière exponentielle, et les apôtres ont été vite débordés par la situation. Comme on dit, ils ne pouvaient pas être au four et au moulin. Et donc, en plus de la prière, de la parole de Dieu, ils s'occupaient aussi de distribuer donc des biens pour les veuves qui n'avaient pas de revenus ou peu de revenus. Et comme ils ont été débordés, ils avaient établi des priorités, des choix. Et donc, ils donnaient donc cette assistance d'une manière prioritaire aux veuves des Hébreux, laissant de côté, eh bien, les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui aussi avaient, comment dire, de culture grecque, mais qui, s'étaient rendus avec eux, donc, dans l'Église. Et donc, ils avaient ainsi établi une priorité au sein de l'Église. Et du coup, forcément, ça crée des tensions, ça a créé des murmures, parce qu'il y avait là une injustice. Donc, ils ont eu cette sage décision, donc, de choisir cet homme, de demander à l'Église de choisir cet homme pour s'occuper de cela. Et d'ailleurs, quand on prend en note les noms de ces hommes, Étienne, Philippe, ils avaient tous donc des noms grecs. Donc on voit qu'ils ont été sages dans le choix des hommes. Il devait y avoir aussi des qualités. Alors on va s'attarder bien sûr surtout sur notre personnage de Philippe, mais cela concerne aussi les autres comme Étienne, comme Nicanor, etc., qui ont été choisis. C'est d'abord, on voit que pour cela, fallait quand même que ce soit des hommes de cœur. C'était des hommes de cœur, parce qu'il s'agissait donc de porter assistance à des veuves. Et je crois que c'est indispensable, en tout cas, pour l'œuvre de Dieu, c'est indispensable dès qu'on, s'engage dans une œuvre d'évangélisation, dès que l'Église s'engage dans cela, de que nous nous engageons dans le témoignage de notre foi, cela ne peut pas se faire sans amour. L'apôtre Paul écrira « L'amour de Christ nous presse, parce que nous avons affaire à des personnes difficiles, nous avons affaire aussi à des gens qui haïssent l'Église ». Nous ne sommes pas, j'allais dire, en terrain conquis. Non, nous sommes appelés à aller vers des personnes qui n'aiment pas l'Église. C'est ça, en fin de compte, la réalité. Et il nous faut beaucoup d'amour pour pouvoir aller vers ces personnes qui ne nous aiment pas ou qui, pour le moins, peut-être, sont indifférents par rapport au message de l'Évangile. Donc, il nous faut surmonter cela pour pouvoir, eh bien, leur témoigner de notre foi. Cet amour, nous le voyons chez Philippe, non seulement dans le fait qu'il s'est occupé des veuves, mais aussi, on le voit parce que Philippe, nous en parlerons tout à l'heure, Philippe est allé en Samarie. Or, la Samarie était un territoire hostile aux Juifs. Il y avait une animosité réciproque entre les Samaritains et les Juifs. Certains Juifs ne voulaient pas entendre parler des Samaritains. D'ailleurs, Jésus s'est rendu aussi dans ce territoire en Samarie, et c'est là qu'il y a cette femme samaritaine qui va se convertir au Seigneur Jésus. Et Philippe, avec son cœur qu'il avait à surmonter ses préjugés raciaux qui étaient là, ses préjugés culturels qui étaient là, pour pouvoir aller en Samarie. Et puis, nous le voyons aussi aller vers un homme. Le Saint-Esprit a guidé toutes choses pour que Philippe se rende vers un ministre éthiopien, un eunuque. Donc, on voit que Philippe, là encore, a été au-dessus de ces barrières qui existaient, et j'oserais dire, qui existent toujours entre races. Donc il a surmonté ça. On voit vraiment que Philippe était un homme de cœur. C'est une première qualité. Et puis on voit que ces choix de ces hommes les apôtres ont donné quelques critères, trois critères. Un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Trois témoignages, trois critères. Bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Cela est important d'avoir un bon témoignage. Et ce bon témoignage va consolider, j'allais dire renforcer, ce témoignage de Jésus qui va sortir de notre bouche. Si nous nous comportons n'importe comment et que nous parlons de Jésus, nous sommes là en contre-témoignage. Je me rappelle, il y a des années de cela, j'étais avec un jeune de l'église et c'est lui qui conduisait. C'est lui qui conduisait. Et puis, il s'était approché trop près d'une voiture qui était garée sur le côté et il a accroché la voiture. L'accident n'était pas trop grave. Bien sûr, il n'y a pas eu de blessés, mais les carrosseries étaient rayées, donc il a fallu faire un constat. Il était en tort. Il était en tort. Bon, ça peut arriver. Mais en plus d'être en tort, il est sorti, il a râlé. Bon, je ne savais plus trop où me mettre. Et puis, il fait le constat, et après le constat, il invite cette personne à venir à l'église écouter les messages de l'évangile. Mais non, attends, t'es en tort, tu râles après la personne, et tu lui parles de Jésus. Je l'ai pris à part après. Mais vous comprenez bien. Comprenez bien que c'était un contresens. Il aurait dû, bien sûr, ça peut arriver d'être en tort dans un accident, parce que bon, voilà, on n'a pas fait trop attention. Ça peut arriver. Mais le fait qu'en plus, il s'était fâché après ce monsieur, et ainsi après parler de Jésus et l'inviter à l'église, mais c'est pas possible. Comprenez bien que il nous faut être quand même avoir un bon témoignage, Sinon, c'est le contraire qui va se produire. On va faire fuir les gens. Faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Hein. Première chose. Deuxième chose, et pas la moindre, c'est que ces hommes-là, ils devaient être pleins d'Esprit Saint. Je rappelle que Jésus avait dit d'attendre à Jérusalem. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Parlez du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. On a besoin aujourd'hui d'être plein de cet Esprit Saint qui vient du Seigneur. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui le fait, c'est lui qui nous envoie l'Esprit Saint. Donc nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous y aspirons. On voit vraiment que Philippe était rempli de l'Esprit Saint lorsque nous ouvrons les livres des Actes des Apôtres au chapitre 8, par exemple. On voit qu'il y avait beaucoup, au verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc là, on voit vraiment, c'est un critère. Les miracles qui se faisaient. Verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc on voit que l'Esprit Saint était à l'œuvre, l'Esprit Saint était à l'œuvre. On voit vraiment aussi que la manière dont Philippe se comporte démontre vraiment, eh bien, qu'il était rempli du Saint-Esprit. Au chapitre 8, toujours verset 39, « Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. » Vous savez, la joie, c'est le fruit de l'Esprit. Le fait d'être plein de l'Esprit, bien sûr, les dons vont se manifester. Les dons de l'Esprit vont se manifester. Mais il n'y a pas que ça. Le fruit de l'Esprit va grandir. Et qu'est-ce qui nous est dit ? Il nous est parlé de la joie de Philippe. Joyeux, il poursuivait sa route. Ah, j'aime bien cette expression, hein. Nous sommes appelés à poursuivre notre route dans la vie. Puissions-nous la poursuivre avec joie. Ça, c'est facile à dire. C'est pas toujours facile à réaliser. Je parle pour moi aussi. On a besoin de cette joie de l'esprit. Alléluia. On a besoin de cette joie. Vraiment, il poursuivait sa route joyeuse. Et je rappelle quand même qu'il y avait une persécution déjà contre l'Église. Étienne, un des sept aussi, dont il est question au chapitre 6 et 7, venait d'être lapidé. Il nous est dit au début du chapitre 8 que l'apôtre Paul a ravagé l'Église. C'est le terme qui est employé. Il ravageait l'Église. Et à cause de cette persécution, impulsée par Paul, qui n'était pas encore converti à ce moment-là, les disciples se sont éparpillés un peu partout. Et donc, il y avait cette menace qui était bien réelle. Mais on voit, on parlera du courage tout à l'heure de Philippe, que non seulement il a eu du courage pour continuer à évangéliser, mais il était joyeux. Alléluia. Donc, les circonstances n'étaient pas forcément favorables, mais étant plein d'Esprit Saint, la joie l'accompagne. Que Dieu soit béni, parce que la joie de l'Éternel, elle est notre force. Au verset 29, on voit aussi que Philippe est, comment dire, sensible à la voix de l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe. Donc on voit qu'il y a une bonne communion entre l'Esprit de Dieu et Philippe. Il est accessible à l'Esprit de Dieu. Il est accessible. Et ça, c'est un trait aussi de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parle et il arrive à discerner ce que le Saint-Esprit veut mettre dans son cœur. Donc on voit ici qu'il y a ces trois critères, bon témoignage, plein d'Esprit Saint et aussi la sagesse, car nous avons besoin de sagesse pour savoir ce qu'il convient de dire et ce qu'il convient de faire envers chaque personne, que Dieu nous donne cette sagesse qui vient d'en haut. Vous savez, l'apôtre Paul dit à Timothée que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Trois choses que nous retrouvons aussi chez Philippe, force, amour et sagesse. Ce qu'on peut remarquer aussi chez Philippe, en lisant le chapitre 8 des Actes des Apôtres, nous remarquons encore d'autres choses. Tout d'abord, Philippe était disponible. Philippe était obéissant et Philippe était rempli de zèle. Le zèle étant encore aussi un trait de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Philippe était disponible. Au verset 26, il est dit ceci, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Celui qui est désert. Philippe, de suite, s'est exécuté. Il aurait pu essayer de discuter avec le Seigneur. Tout se passait bien à Samarie. Il y a un réveil extraordinaire dans cette ville. Philippe arrive, au verset 5, il prêche le Christ. Et il nous est dit que les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Il y a eu des miracles, au verset 7, des délivrances démoniaques, beaucoup de guérisons, des paralytiques, des boîtes d'œufs furent guéris. Au verset 8, il y a eu une grande joie dans cette ville. Une grande joie. Waouh ! Qui ne voudrait pas avoir de telles réunions ? Quel prédicateur ne voudrait pas avoir des réunions semblables, Vous allez dans une ville, vous prêchez l'évangile, et des foules viennent vous écouter, attentives, des miracles et beaucoup de joie. On aimerait ça, Alléluia. Et on aspire à ça, on prie pour que le Seigneur bénisse cette région dans ce sens. Alors quand c'est comme ça, on ne veut plus partir. Le Seigneur va lui dire, tu vas aller dans le chemin, le désert là. Waouh, je quitte ces réunions bénies, le ciel est sur la terre, pour aller me retrouver dans ce chemin désert. En plus, il y a une persécution là dans cette région, le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, et un chemin désert. Il lui a pas encore dit ce qui va se passer là. Mais il est disponible et obéissant et rempli de zèle. Je crois que c'est important pour nous d'être disponible. On a nos habitudes, voire peut-être notre confort, mais à partir du moment où l'on souhaite s'engager dans l'évangélisation, on a beaucoup de surprises avec le Seigneur. Et du coup, il nous faut beaucoup de disponibilité, d'obéissance. Obéissance que nous voyons encore au verset 29, où l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Et Philippe a accouru. De suite, il a obéi au Seigneur. De suite. On voit là vraiment que cet homme avait des qualités, et puis rempli de zèle. Au verset 40, on l'a lu, mais je vais le relire. Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il perd pas de temps, Philippe. Il a été transporté par l'Esprit. Ça aussi, c'est un miracle, hein. Alléluia. Et il s'est retrouvé dans la ville d'Azote. C'est au sud, c'est pas loin de Gaza, une ville qui s'appelle Ajdod aujourd'hui. Et donc, et il allait jusqu'à Césarée, il y a quand même pas mal de kilomètres. Césarée où il va habiter plus tard, on le voit dans l'Acte chapitre 21. Mais sur la route là, à chaque fois qu'il va rencontrer une ville, un village, il prêche l'évangile. Donc on voit le zèle de Philippe, sa disponibilité, son obéissance et son zèle, ce qui est indispensable pour l'évangélisation. Nous avons chanté tout à l'heure, et j'aimerais que tout à l'heure on puisse le rechanter, « Me voici, me voici, me voici Seigneur. » Il était prêt à répondre à l'appel de Dieu, prêt à obéir. Et c'est ce que nous voulons, nous aussi. Des fois c'est vrai qu'on y aspire dans notre cœur, on le désire, mais quand vraiment le moment est venu, je crois que non seulement il nous faut dire « me voici », mais il nous faut faire le premier pas pour pouvoir nous engager dans l'évangélisation. « Seigneur, me voici ». C'est aussi la réponse que Ésaïe a donnée au Seigneur lorsqu'il lui est apparu dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe dira « mais me voici Seigneur, envoie-moi ». La question avait été posée. Le Seigneur a des questions à nous poser parfois. Qui enverrai-je ? Et Ésaïe va répondre, « Me voici, envoie-moi. » Et le Seigneur nous dit, « Mais qui enverrai-je ? Qui enverrai-je vers ces nations ? Qui enverrai-je vers cette population ? Qui enverrai-je vers cette personne seule ? Il y a les foules, mais il y a aussi les personnes seules. Qui enverrai-je ? Me voici, Seigneur. Je me rends disponible entre tes mains. » Mais je voudrais dire, si vous faites cette prière, « Je me rends disponible », attendez-vous à des surprises, hein. Alléluia! On va avoir des surprises avec le Seigneur. Si on fait une telle prière, il va nous diriger. Mais soyons à ce moment-là toujours disponibles pour obéir à la voix du Seigneur. Philippe était aussi un homme courageux et il nous en faut du courage. Je disais tout à l'heure que Philippe est allé, il a continué à prêcher Jésus malgré les menaces, malgré la persécution, malgré que Paul ravageait l'Église. Il continue à prêcher l'évangile et il va à Samarie, un territoire hostile, il y va. Donc un homme qui a du courage, et il nous faut du courage, c'est indispensable. On a affaire à des gens parfois qui sont durs, qui réagissent mal à l'écoute de l'évangile, qui réagissent mal. Il nous faut du courage malgré les menaces, et je crois qu'il va nous en falloir de plus en plus. Parce que le monde devient compliqué, je dirais, même en France, la France devient dangereuse. Et il nous faudra beaucoup de courage et surmonter la peur avec notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce que l'on remarque encore, et c'est une qualité indéniable chez Philippe, et c'est indispensable pour notre témoignage, c'est que Philippe connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Déjà, il a prêché le Christ. Et pour prêcher Jésus, il faut quand même en savoir un minimum sur Jésus. Si nous-mêmes, on ne sait pas vraiment qui est Jésus, comment on va pouvoir témoigner de Jésus? Et je dirais que pour connaître Jésus, il nous faut avoir une intimité avec lui. Plus on côtoie une personne, mieux on la connaît. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des personnes qu'on connaît comme ça, ce sont des connaissances, mais sans plus. Mais dès qu'on entre dans une relation avec ces personnes, qu'on les côtoie, plus on les connaît. Et plus on va côtoyer Jésus, plus on va le connaître. Il connaît Jésus, il connaît sa parole, il est capable d'expliquer à cet Éthiopien le passage de l'écriture qu'il était en train de lire, c'est-à-dire Ésaïe 53. Mais non seulement il est capable d'expliquer à cet homme Ésaïe 53, mais au verset 34, eh bien, on voit, au verset 35, alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il lui a expliqué, mais il a été plus loin que cela, il lui a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus jusque au baptême. Il lui a parlé du baptême, puisque justement, cet homme lui a demandé, mais qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alléluia. Donc, je crois que c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Et avec l'évangélisation, si nous voulons vraiment nous engager dans une œuvre d'évangélisation, ça ne peut pas se faire sans formation biblique. D'où l'importance d'avoir des enseignements sur les doctrines fondamentales, mais aussi sur ce qu'on appelle le discipulat, la formation du disciple. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est nécessaire pour pouvoir déjà être fort intérieurement et pour pouvoir répondre à quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Amen. J'aimerais encore souligner un point avec Philippe. C'est que si Philippe, même si on le voit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, relisez cette histoire, il intervient à trois reprises dans les Actes des Apôtres, acte 6, surtout acte 8, et puis on le revoit un peu plus loin, dans acte 21 et au verset 8, il va héberger Paul, donc c'était aussi un homme hospitalier, il avait quatre filles qui prophétisaient, et ce qu'on remarque chez Philippe, c'est que il savait aussi travailler en équipe. Alors, c'est vrai, dans les Actes des Apôtres, on le voit un peu seul, au chapitre 8. Hein, il va de ville en ville, il prêche l'évangile. Mais néanmoins, Philippe fait partie de l'Église. Au verset 14, il est dit ceci, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » Ce que j'aimerais dire, c'est que, et ça c'est important, c'est qu'on ne peut pas faire tout soi-même. Philippe a témoigné de sa foi, il a prêché Jésus, les apôtres l'ont su, et ils ont envoyé Pierre et Jean pour voir un petit peu ce qui se passait là-bas. Et c'est eux qui ont prié pour que ces Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. On voit que ici, Philippe avait ses propres limites aussi. Et nous avons nos limites. Et heureusement que Dieu nous a fixé des limites, hein, parce qu'on se prendrait pour je sais pas quoi. Heureusement qu'on a des limites. Heureusement. Mais là où nous pouvons pas aller plus loin parce que ce sont nos limites, c'est là que va pouvoir entrer en jeu le frère untel, la sœur untel, parce que ce qu'il a ou ce qu'elle a reçu du Seigneur va compléter l'œuvre que nous avons pu commencer, que nous avons pu faire. Parce que l'Église est un corps. L'apôtre Paul le dit bien, on l'a vu quand on a fait l'étude sur les dons spirituels les mardis soirs. L'Église est un corps, et chaque membre dans ce corps a son utilité. Philippe avait son utilité, et Pierre et Jean aussi la leur. Philippe n'a pas dit, non, c'est mon œuvre, c'est la mienne, c'est moi qui ai prêché l'évangile à Samarie, n'intervenez pas dans ce que je fais, marchez pas sur mes plates-bandes, c'est mon Église. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, non, c'est pas à vous de prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est à moi. D'ailleurs, les âmes ne nous appartiennent pas. Et c'est parfois le dilemme. Je connaissais quelqu'un, un frère en Christ, vraiment un gentil frère en Christ, et il avait le chic de gagner des âmes. Ah, c'était un accrocheur, c'était extraordinaire. Mais il avait aussi le chic de les faire fuir. Pourquoi ? Parce qu'il était très maladroit et qu'il voulait faire ce que le Seigneur ne lui avait pas confié. Donc il était très bien pour amener des gens, mais il fallait surtout pas après qu'il les suive. Il valait mieux que ce soit d'autres personnes qui suivent ces personnes. Vous voyez, ce frère ne connaissait pas ses limites. Et à cause de cela, malheureusement, parfois, il gâchait un peu le travail qu'il avait commencé à faire. Donc connaissons nos limites et prenons conscience que les âmes ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas parce que nous avons amené une âme au Seigneur que cette âme, il y a son nom, notre nom marqué sur lui. Non, le seul nom qui est marqué dans son cœur, c'est le nom de Jésus. Les âmes appartiennent à Jésus, elles ne nous appartiennent pas. Comprenez ? L'Église, elle appartient à Jésus, elle n'appartient pas à un homme. Ce n'est pas l'Église d'un tel, ce n'est pas l'Église de Lionel, non, c'est l'Église de Jésus-Christ. Comprenons bien que nous appartenons tous à Jésus. Et c'est là ce qui est important. Et que l'Église participe à l'œuvre, l'Église dans son entière participe à l'œuvre que Dieu a prévue pour la conversion des âmes, mais pas seulement pour leur affermissement dans la foi. Et dans ce travail-là, c'est un travail d'équipe. Parce que ce n'est pas le tout de gagner des âmes, il faut que ces âmes aussi puissent s'affermir dans la foi. Il n'y a pas que l'évangélisation, vous la comprenez bien. Jésus a pu dire de faire des disciples et enseigne-leur. Donc on voit qu'il y a aussi avec l'évangélisation tout un programme d'enseignement. Alors, nous avons besoin aujourd'hui de tels hommes, de telles femmes. Nous avons besoin de tels évangélistes. Nous avons besoin de tels témoins de la foi qui ont ces qualités de cœur pour témoigner de leur foi aujourd'hui. Notre monde va mal, vous le savez bien, mais l'Église a la réponse. Pourquoi elle a la réponse ? Parce qu'elle a le message qu'il faut. Elle a le message qu'il faut. Elle a l'Évangile, alléluia, qui est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ.